you. Are you racing or watching?
La dispute littérature. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Lucille Como, Étienne de Montetti et François Angelier pour parler ensemble de Éden de Monica Sabolo, Substance de Claro, La part du fils de Jean-Luc Coatelem. Il y aura un coup de cœur de François Angelier pour le mystérieux solénoïde de Mircea Cărtărescu. Nous ouvrons cette dispute avec Éden de Monica Sabolo, publié chez Gallimard. On va y découvrir, après un premier chapitre écrit à la troisième personne, une narratrice qui s'appelle Anita. C'est une adolescente autochtone dans une région isolée qu'on imagine bien être au Canada. Et lorsque Lucie s'installe avec son père dans une maison voisine, Anita va être intriguée par cette nouvelle venue qui semble jouer avec le feu. Il faut dire que dans la région, essentiellement recouverte d'une forêt dense et mystérieuse, des choses terribles se produisent.
Il y avait des panneaux, ça et là, sur la route. On les voyait de loin, seul élément vertical entre l'horizon et le ciel. Les visages en noir et blanc des disparus. À leurs pieds, des fleurs, des bougies, des lettres recouvertes de cœurs et de larmes, tels les restes abandonnés d'une fête d'anniversaire. De grandes lettres noires, toujours les mêmes, missing. Ces lettres qui finissaient par ne plus être lisibles, délavées par la pluie qui tombe sans cesse ici, à la façon d'un flot se déversant d'un autre univers, plus vivant, plus doux. Un univers en négatif du nôtre. Des filles, adolescentes, mères de famille, prostituées, quelques jeunes garçons, volatilisés. Disparus à la sortie de l'école ou d'une pharmacie, d'un bar, jamais rentrés, montés dans une voiture, un camion, pour un ailleurs qui pouvait être une ville plus riche, un refuge chez un ami sur la côte, ou la mort. J'imaginais quelquefois la photographie de mon père sur l'un de ses panneaux. Je me demandais ce que je poserais à ses pieds. Ses chaussures? Un paquet de cigarettes? Quand il est parti dans la forêt, il a tout laissé derrière lui. C'était il y a 3 ans. J'en avais 12. Et pourtant tout est flou. Aussi lointain que le souvenir d'une autre vie. À la fois inaccessible et à portée de main, juste derrière un voile. Je ne me souviens presque plus de son visage, sauf au réveil. J'ouvre les yeux et je le vois, sa figure près de la mienne. Il sourit et se dissout aussitôt, à la façon d'un songe qui s'échappe à l'instant même où il nous revient. La nuit, il me parle, mais je n'entends pas. Parfois, je le suis dans mes rêves. Il avance dans les bois. Ses pas crissent comme s'il marchait sur des milliers d'insectes morts. Les arbres se resserrent, leurs branches me retiennent et se referment sur moi. Je crie le nom de mon père, mais il n'y a personne.
Après cette lecture par Aïssa Toundoï d'un extrait d'Éden de Monica Sabolo, un premier rapide tour de table pour résumer votre impression sur ce livre, Lucille Como.
Un roman d'une très grande efficacité et qui brasse avec habileté à la fois des mythologies et des formes très contemporaines.
François Angelier.
Du bon usage de Stephen King.
Étienne de Montetti.
C'est un roman d'adolescence et ça en a donc le charme mais aussi le caractère exaspérant.
Ah, vous êtes exaspéré par l'adolescence, nous creuserons ce sujet dans quelques minutes après avoir donné la parole peut-être à la plus enthousiaste. Hein. J'aime bien commencer par là, Lucille Como.
Oui, l'Éden de Monica Sabolo, on l'entendait aussi dans l'extrait, est vraiment un anti-Éden, puisque c'est un monde où se multiplient tous les clivages, toutes les séparations, tous les antagonismes. C'est un clivage entre la forêt et la ville, un clivage entre du coup la civilisation des hommes, disons, puis la nature, entre les parents et leurs enfants. Tous les adolescents quasiment ont des problèmes avec leurs parents, et notamment il y a une perte des pères, les pères disparaissent les uns après les autres, et puis entre les blancs, et ceux de la réserve, donc on devine amérindiens, mais encore une fois, l'ancrage à la fois géographique et temporel est assez lâche. On pourrait absolument imaginer que ça se passe un peu partout. Et ce qui est assez fort et ce qui est très efficace, c'est que tous ces antagonismes-là sont posés dès le départ de manière assez simple, mais ce n'est pas simpliste. Il y a des phrases d'une concision absolument exemplaire sur justement les rapports de force qui s'établissent, et tout ça se concentre dans la première image saisissante du livre, qui est l'image d'une jeune fille, donc en l'occurrence Lucie, cette jeune fille mystérieuse, qui se retrouve, bon, je dirais pas exactement ce qui lui arrive, mais en tout cas on la retrouve couchée dans une position fœtale, mi-animal, mi-jeune fille, dans la forêt. Donc ces adolescents-là évoluent en effet dans ce milieu indéterminé-là. Moi, ça m'a beaucoup fait penser dès le départ, moins à Stephen King qu'à Lynch et à Twin Peaks, parce que il y a cette manière de fonctionner géographiquement par pôle, entre le bar qui s'appelle Hollywood, la forêt, les maisons, à l'intérieur de la forêt, les lieux vraiment sauvages, les lieux plus ou moins gagnés par la civilisation, qui sont moins géographiques que symboliques et qui forment vraiment une sorte de toponymie dans laquelle circulent tous ces antagonismes, qui est assez intéressante et assez mécanique. Il y a surtout une faculté de l'écriture, je crois, en quelques mots, à saisir des choses. Vraiment, j'étais impressionnée par le niveau presque de la synthèse, la capacité de synthèse de certaines notations pour décrire la position d'une adolescente, la manière dont elle est habillée, une certaine ambiance dans la forêt, l'obscurité. Tout ça, c'est absolument magnifique. Après, j'ai des réserves, mais j'en reparlerai après, sur le côté brassage du contemporain. Il y a des motifs qu'on voit beaucoup au cinéma, dans les séries, qui reviennent de manière assez insistante et qui sont pas forcément qu'on attend beaucoup, qui sont très attendus.
Bon, après, les réserves viendront, mais alors celui qui semble en avoir le plus, c'est Étienne de Montetti, alors passons de l'éloge à...
Non, je partage l'avis de Lucille sur l'installation dans ce livre, effectivement, d'un univers, de cette forêt très intrigante, aussi de tous ces personnages, même si je trouve que ça tourne assez vite. Les antagonistes tournent un petit peu au cliché, avec notamment les hommes qui sont forcément des prédateurs. C'est pas du tout une affaire morale ou autre, c'est un petit peu cliché. Mais il reste une certaine efficacité. Après, je trouve que ce que disait Lucille, effectivement, ces motifs installés un peu voyants, cette adolescence qui est décrite avec force détail, notamment de son habillement, de ses rites initiatiques, assez vite, là je trouve que ça tourne à lassitude, et la promesse du départ n'est pas tenue. Je trouve les dialogues très vite finalement assez pauvres, voire assez caricaturaux à force d'être simples. Évidemment, ce sont des adolescents qui parlent, hein, comme j'ai dit, ça en a le charme et parfois le caractère exaspérant. Et assez vite, on est un peu lassé, surtout quand le fantastique s'invite là-dedans. J'avoue que c'est un livre qui, pour moi, ne tient pas ses promesses.
Alors, François Angelier, sans trop divulgacher, bien sûr, toujours. Hein.
Ah non, rassurez-vous, je vais faire au mieux. Non, moi, je parlais Stephen King parce qu'effectivement, on retrouve, disons, les caractéristiques, les ingrédients fondamentaux de l'art de King, et à travers l'art de King, de toute une grande part du fantastique nord-américain récent, que ce soit en littérature, dans les séries ou au cinéma. C'est-à-dire, d'une part, effectivement, le continent nord-américain avec ses tensions raciales, culturelles, des petites communautés fermées où justement la violence s'exaspère, avec là notamment le bar du Hollywood, où tout est possible, voilà, on se comprend, la culture indienne, la culture dite blanche, tout cela créant des tensions économiques également, puisque le travail est réservé aux uns et pas aux autres. Donc il y a déjà cet aspect social qui est très kingien, quoi. Cette Amérique des profondeurs, avec toutes les violences internes. Il y a l'aspect fantastique, puisque plane sur tout le roman la réalité ou non d'apparition, de disparition, de meurtrissures qui peuvent être sacrificielles. On pense au Bigfoot, on pense aux créatures de la forêt. N'est-ce pas là le retour d'une sorte de monstre mythique indien qui viendrait se venger? Enfin, bon, il y a cet élément-là. Et puis, évidemment, tout le côté nature writing, c'est-à-dire la manière dont cette énorme masse puissante de la nature nord-américaine pousse sur la culture, la petite culture urbaine et communautaire des résidents. Donc tout cela, moi, j'ai trouvé que c'était très marqué par ces influences. Le problème étant que ça n'est abouti dans aucune des trois directions. C'est-à-dire, sur le plan du nature writing, on aurait pu aller encore plus loin dans l'approfondissement du contact, le côté charnel avec la nature. Sur le plan du fantastique, bon, je ne dis rien, mais bon, voilà.
Vous n'en pensez pas moins.
Et sur le plan des tensions sociales, c'est peut-être là où c'est le plus au point, à mon avis. C'est où la réussite est la plus évidente. C'est-à-dire que justement, dans les dialogues, dans les scènes de bus, des scènes de bar, des scènes de rue, d'autoroute, de le rapport avec la police, tout ça, là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose. Mais bon. Un petit peu laissé sur le bord de la route, de la highway.
Oui, alors moi ce qui m'intéressait, c'est de voir que Monica Sabolo, il faut se souvenir que le précédent roman Summer traitait de la disparition d'une jeune fille, elle en était sur le bord du lac Léman, dans la bourgeoisie aisée. Là, effectivement, ce changement de lieu et ce changement de catégorie sociale aussi, moi je trouve que c'était assez ambitieux, parce qu'on voit bien que Monica Sabolo, elle hausse le niveau d'attention, en tout cas de son projet. Moi je serais moins sévère que vous, François Joly, parce que je trouve que la dimension fantastique, sans rien en dire de plus, moi je trouve que justement elle l'utilise extrêmement bien, mais je peux pas en dire plus. La dimension sociale, moi je la trouve également assez réussie. Moi j'ai davantage pensé à Russell Bank, vous savez, pour ces romans avec des petites communautés comme ça isolées, quels sont les liens entre les uns et les autres. Enfin, il y a cette façon de tisser des histoires. Les pères disparus, en effet, sont importants. Et puis cette sororité des serveuses du bar, boîte de nuit, le Hollywood, où tout est possible.
Tout est possible.
Trois petits points. Moi, je trouve qu'il y a des communautés comme ça qui se créent, qui se forgent, à une façon dont la jeune Nita va rejoindre cette sororité. C'est très bien diffusé tout au long du roman. Ça vient pas d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Moi, j'aurai encore d'autres choses à dire. Mais Lucille Comeau avait des réserves tout à l'heure.
Oui, alors je rebondis sur ce que vous venez de dire. Le personnage de Nita, qui est un personnage curseur, parce qu'il nous permet à nous lecteurs d'entrer dans ce milieu-là, ce qui est vraiment voilà le pacte de lecture assez basique et assez simple, est un peu problématique pour moi. Et là, je suis pas loin de rejoindre Étienne de Montetti. Par exemple, les dialogues qu'elle a avec sa mère et puis après avec son beau-père, parce qu'il y a un homme dans la vie de sa mère, sont assez clichés et m'ont un peu dérouté, mais vraiment au sens premier, c'est-à-dire m'ont mis sur la piste d'un roman en effet un peu social, de presque naturalisme, de milieu, alors que on le creuse pas vraiment. Alors c'est un personnage qui est totalement indéterminé au début. À partir du moment où on lui prête une forme de volonté, notamment dans les antagonismes avec sa mère, je trouve qu'on perd de l'inquiétude qu'on peut avoir quand on lit le roman. De manière générale, je trouve qu'on perd en inquiétude, je trouve qu'on perd en éléments fantastiques, à la fois parce qu'il y a une surdétermination des autres aspects du livre, et également parce que disons que ce surnaturel-là, la possibilité de l'inquiétude et du fantastique, elle est en effet extrêmement reconnaissable. On a tellement d'images d'un sud, je sais pas, du sud des États-Unis où se mélangent l'archaïsme et la question raciale, par exemple, ou la question sociale, quand on va au cinéma ou qu'on regarde des séries ou qu'on lit la littérature américaine d'aujourd'hui, qu'on est très très vite dans un terrain connu. Il existe des images déjà presque toutes faites, et du coup, toute la promesse du départ, qui est extrêmement bien énoncée, parce qu'il y a un pacte de lecture qui est passionnant, il y a des éléments téléologiques en permanence qui nous disent « ça ne se serait pas passé comme ça si, mais cette nuit de cauchemar qu'on appellera ensuite la nuit de cauchemar », tout ça, ça nous promet, c'est une promesse extrêmement enthousiasmante en termes de narration, et je trouve qu'on perd de cette tension-là dans la reconnaissance des motifs.
Étienne de Montetti a l'air d'être d'accord avec vous, Lucie.
Mais oui, parce qu'effectivement, on a cité des références extrêmement prestigieuses. C'est certainement un écrivain, Monica Sabolo, qui a beaucoup aimé cette littérature, beaucoup vu, beaucoup écouté, beaucoup lu. Tout ça est bien, et je n'aborde pas du tout le sujet de l'appropriation culturelle, ça c'est des choses qui me conviennent pas du tout. Et justement, c'est très très bien fait, il manque une forme de, je sais pas, de quelque chose pour que cette histoire-là, elle soit en mesure de la raconter au-delà de ses références brillantes, etc. Et par exemple, je pensais, à ces rapports entre les adolescents. On a en tête des répliques de livres, des répliques de films. Et assez vite, parce que le charme ne prend pas assez. Au premier degré, il y a une pauvreté dans les dialogues quelquefois. Ce sont des dialogues adolescents, mais ça fait tomber le livre. C'est terrible, il y a des réflexions sur la société. À un moment donné, il y a une discussion, je crois, entre Nita et un policier qui mène l'enquête sur la justice, la police, etc. Je passe même sur le niveau de la discussion où la police est évidemment violente, la justice corrompue, etc. C'est d'une naïveté nécessaire chez l'adolescent, mais qui fait vraiment tomber l'intérêt du livre.
Lucille, comment ?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a une forme de naïveté. Parfois, elle est assez bienvenue, je trouve. Là où je suis pas d'accord avec vous, Étienne, de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que sur les relations hommes-femmes, je trouve que justement, il y a quelque chose qui excède la pure séparation hommes-femmes. Les hommes sont tous des monstres obsédés.
Il y a peu d'hommes à sauver dans le livre.
C'est justement assez intéressant l'évolution des garçons, c'est-à-dire des adolescents hommes, puisqu'il y en a deux
au
moins.
Et même les adolescents,
ils sont quand même assez intéressants. Moi, je trouve qu'ils évoluent de manière assez subtile, et il y a une scène, notamment une scène de sexe entre l'héroïne et un garçon de son âge, qui est très très intéressante parce que elle lit, oui je trouve, parce qu'elle lit à la fois des clichés, elle lit à la fois des clichés du teen movie, du film d'adolescent, de la première expérience sexuelle, à ce qu'il y a d'extrêmement inquiétant par ailleurs dans toutes les autres relations sexuelles qui arrivent dans le livre. Cette limite, cette fameuse zone grise dont on n'arrête pas de parler sur la question de la violence sexuelle, elle est assez bien illustrée, je trouve, dans cette scène-là. Et c'est rare, je trouve, d'arriver à un équilibre entre le consentement et la violence, entre ce qu'on veut vraiment, ce qu'on ne veut pas, le tout dans un décor de nature qui est toujours... Bon, là, c'est vraiment... Moi, je trouve qu'elle a un art de la description, de la notation assez impressionnant. Je trouve que pour le coup, du point de vue des relations hommes-femmes, quelque chose se joue qui est plus qu'un antagonisme simpliste et surtout plus qu'une récupération des thèmes
non,
à la mode.
Je lui fais crédit de ça. C'est la scène à laquelle vous faites allusion, vraiment, je la trouve d'une naïveté dans la formulation.
Moi, je vais rejoindre Lucille Comeau.
J'ose pas citer parce qu'on
ne va pas à charge.
On ne va pas citer à charge, mais j'ai trouvé qu'il y avait une naïveté dans la description qui était probablement ce qu'un adolescent ressent. Mais là, encore une fois, le lecteur, on lui affiche quelque chose qui ne marche pas.
Moi, je suis pour le coup du côté de Lucille Comeau et je ne voudrais pas oublier ce que vous disiez en ouverture et que je partage vraiment. Moi, je trouve qu'il y a une beauté de la langue, une belle efficacité. C'est pas du tout, il ne s'agit pas d'être efficace pour être efficace, mais je trouve qu'elle arrive vraiment en très peu de mots. J'ai souligné beaucoup de phrases au fur et à mesure de ma lecture. C'est vraiment une forme de précision que moi, je trouve extrêmement belle, qui plus est. Un dernier mot, François Angelier ?
Le dernier mot, c'est que je pense qu'il y a trois directions, et sur les trois directions du récit, il y en a peut-être une de trop. Je pense pas qu'on puisse à la fois être...
C'est bien être ambitieuse.
Oui, non, l'ambition, je salue, surtout en littérature, où ça devient une denrée rare.
Et surtout en France.
Mais là, je pense qu'on fait pas au fantastique sa part, ou même à un fantastique, je dirais... rationalisé, on fait pas au psychologique sa part. Je veux dire, il faut choisir un axe romanesque qui soit clair. Et là, on est un peu, je crois, avec justement toutes les scènes, les tensions psychologiques, les scènes effectivement érotiques, qui ça se dissout un peu. Quoi, il y a un climat d'angoisse, un climat un peu terrible qui se dissout dans des résolutions psychologiques qui moi m'ont semblé plus pauvres.
Bon, voilà, des avis assez partagés sur ce roman Eden de Monica Sabolo. Alors, pour rappel, il fait partie de la sélection du prix du roman des étudiants qu'organise chaque année France Culture et Télérama. On a présélectionné 5 romans. Donc, Eden de Monica Sabolo, Dans la maison d'Emma Becker, dont nous parlerons bientôt. Et puis, d'autres livres dont on a déjà parlé ici. La mère à l'envers de Marie Dariussecq, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois. Et Par les routes de Sylvain Prudhomme. Et je signale donc, et je rappelle que tout étudiant scolarisé dans un établissement d'enseignement supérieur peut participer. Comment ? Eh bien, il faut s'inscrire avant le 7 octobre, donc il reste encore 2 petites semaines, sur la page internet du prix du roman des étudiants France Culture Télérama. N'hésitez pas à devenir juré. À suivre dans la dispute, nous allons parler des livres de Claro, de Jean-Luc Coatelem et de Mircea Cărtărescu.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute, avec Substance, je vais y arriver, de Claro, non, c'est parce que j'ai dit Coatelem, alors que c'est Coatelem, hein, le nom de Jean-Luc, Coatelem. J'ai pourtant bien écrit. Bref. Donc, Substance, Claro, Actes Sud, c'est l'histoire d'un orphelin qui devient spirit. qui est Spirit, on va dire ça comme ça, devient ton Spirit.
Ah, voilà.
Vous avez 20 minutes.
Ouais.
Choyé par une femme qui passe son temps à faire de la cuisine. On n'est pas sûr de vouloir la goûter. Être passionné de cuisine et de forces occultes, ça tombe bien. Une dispute qui, décidément, ce soir a un petit goût fantastique. C'est peut-être la présence de François Angelier qui fait ça. On va écouter un extrait choisi par Lucille Gomeau à destination de son lecteur, Boris Pinault.
Au début, bien sûr, je fus rebuté par la texture de l'ectoplasme, sa consistance vaguement sirupeuse, presque poisseuse, la très discrète odeur de mimosa en décomposition qu'il dégageait dès que je le manipulais, l'élasticité relative dont il faisait preuve. Était-il possible qu'en s'affranchissant de sa corporéité, après avoir essuyé l'éprouvante surprise de la mort, l'être se résorbât en une matière aussi triviale qui, par bien des aspects, évoquait le foutre ? Mais le simple fait qu'on pût lui trouver quelque analogie avec la semence de l'homme n'était-il pas révélateur ? N'indiquait-il pas qu'en nous absentant, nous redevenons tels qu'à l'origine nous fûmes pour partie ? Qu'en déduire ? Qu'en rêver ? Était-il susceptible de féconder ce sperme spectral ? Telles sont les questions que je brûlais de soumettre à la tante à la sexualité opaque, laquelle, en compagnie de ses trois amis, Jacqueline Cercy, Ginèbre Grémona et Yvette Echat, s'était entre-temps entichée d'une certaine Suzanne Waldron, une actrice qui interprétait le rôle de Tarantula Gaul dans une émission américaine intitulée Horror Show, la seule émission que la tante parvenait à capter sur son antique téléviseur, alors même que la dite série n'avait été diffusée qu'aux États-Unis, et ce uniquement pendant 2 ans, entre 1957 et 1959. L'émission s'arrêta quand la production découvrit que Suzanne Waldron était enceinte à défaut d'être mariée.
C'était un extrait de Substance, de Claro, publié chez Actes Sud. Premières impressions, premier tour de table rapide. François Angelier.
La sonate des spectres.
Étienne de Montetti.
Le livre porte bien son nom, Substance et substantiel.
D'accord, je suis pas sûr de comprendre encore, mais c'est ça qui est bien, c'est l'aguichage de ce premier tour de table. Lucille Gomeau.
Impressionnant, un peu écœurant.
Bon, alors François, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez sous-titré, vous,
le sonate des spectres, oui.
Oui.
La danse macabre, enfin,
oui.
Ces choses.
Alors, développons.
Alors, oui, effectivement, si on résume l'intrigue, c'est assez succinct. C'est-à-dire Benoît, un orphelin, est arraché à l'enfer d'un internat, d'un orphelinat, par une étrange et fantasque vieille dame qu'il appelle ma tante. Tout cela est à Bar-sur-Aube. Et après, donc, il vit au rythme des mitonnages, des cuisines, des plats absolument hallucinants que prépare la tante. La tante qui est également à la tête d'une sorte de fratrie qui se livre à des activités de marchandage immobilier, mais qui est à la tête d'une sorte de commando de la mort de vieille dame avec lequel elle regarde très régulièrement à la télé des shows d'horreur et des séries horrifiques. Mmh. Et puis ce garçon se découvre une capacité à extraire, à communiquer avec les morts et à extraire en tout cas une substance ectoplasmique du corps des défunts, dans ce qui donne une dimension supérieure à un roman qui a déjà véritablement une forte densité, même ne serait-ce que par son substance réaliste. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, l'histoire, elle est étonnante. Ça pourrait faire l'objet d'une nouvelle de Marcel Aimé ou d'un récit satirique, mais un peu restreint comme ça. Et alors, il se trouve que Claro, là aussi, se livre à une sorte de pratique médiumnique en extrayant de cette histoire toute une sorte de matériaux linguistiques complètement délirants, épais, riches, charnus, proliférants, qui sort du récit comme un véritable ectoplasme. Et ça donne donc un livre. Alors là, du coup, très très étonnante. Cette année, il y a pas mal de récits sur le paranormal. Il y a le Eric Fay, il y a les Mesmer de Frédéric Gros, je crois, chez Albin Michel. Celui-là est sûrement celui dont l'expérience de lecture est le plus étonnant.
Alors, quand vous avez évoqué le nom de Marcel Aimé, Étienne de Montetti a retenu un haut-le-cœur, je crois. C'est pas ce que vous avez ressenti, vous, hein, Étienne.
Non, parce qu'il y a du paranormal chez Marcel Aimé, mais il y a une légèreté.
Ah non, là, c'est pas du tout.
Une clarté du style qui n'est pas tout à fait celle de Claro, dont le sujet d'ailleurs n'a pas beaucoup d'importance. Il y a, il y a une verve évidente, il y a un don comme un homme orchestre pour passer d'un instrument à un autre, d'un genre à un autre. À cette aune, d'ailleurs, la lecture du livre est assez étonnante. Il crée une nouvelle ponctuation avec un 6 points. Il invente des mots, j'ai noté l'incommuni, etc. Il joue avec la typographie, l'italique, le gras, les capitales. Il compose de jolis aphorismes. Mais je trouve qu'on perd très très vite le fil de cette lecture un peu ardue. Et le livre, après avoir un peu fasciné, je trouve écœure assez vite à cause de la surabondance des mots, la surabondance des mots, des pages, et la verve qui très très vite devient une sorte de bavardage un peu assourdissant.
La saturation lexicale, la densité parfois étouffante font partie, à mon avis, du jeu
alors
dans lequel vous êtes entraîné. C'est comme devoir sortir un paquet de nouilles du nez d'une personne dans
une séance de spiritisme. Ça amuse Claro, mais le lecteur souffre.
Alors toute la question est là. Je veux dire, est-ce qu'on joue le jeu
Claro s'est sûrement beaucoup amusé, le lecteur probablement beaucoup moins.
Lucille Gaumont.
Oui, l'écriture et la substance, de toute façon, ça c'est évident. On est vraiment entre le sperme et la morve, on l'entendait dans le... Donc à la fois profondément désirable et extrêmement repoussant. Donc on rentre là-dedans avec cette espèce de double sensation. En plus, au début, on a cette description de plat de l'attente. Moi, j'ai ri vraiment énormément dans le livre. Je trouve ça extrêmement drôle. Les gaufres au rognon et au cassis, des choses quand même, faut y aller. Moi, j'ai eu peur au début, un peu comme Étienne, du côté extrêmement roboratif et exercice de style, parce que c'est pas un petit livre, donc on peut douter de la capacité de l'écrivain à tenir sur la longueur sur ce mode-là. Moi, je trouve qu'il y parvient parce que, je dirais, au tiers du livre, se met quand même en place une forme de narration assez classique, au final, avec des effets de suspense, notamment quand ce petit garçon, dont on sait jamais exactement l'âge, il est assez indéterminé, parfois il est très jeune, parfois il est déjà adolescent, se retrouve chez un des vieux qui est dans la ligne de mire de la tante, puisque la tante vit en achetant par viager des maisons de vieux.
Le
vieux
Voinchet. Elle mise sur les morts prochaines.
Exactement. Il se retrouve chez un vieux Voinchet, et c'est à ce moment-là qu'il découvre ses pouvoirs, la fameuse substance. À partir de là, des nouveaux personnages enrichissent le duo dont j'ai eu peur qu'il soit l'unique.
Oui, ça serait resté en huis clos dans la maison.
Ça aurait été un petit peu compliqué.
Ça, c'est le son les deux premières parties seulement.
Mais ça prend de l'ampleur, et moi, je dois dire que même j'ai été assez surprise à la fin d'être assez profondément émue, c'est-à-dire que ce personnage de Benoît, il se construit réellement. C'est pas un pur prétexte à l'exercice de style, même si évidemment tout est appréhensible de manière organique, il y a quand même quelque chose d'un personnage qui se constitue vraiment dans son rapport avec la tante, dans son rapport avec ses parents qu'il fantasme en permanence puisque c'est un orphelin, et ce personnage de Marguerite qui arrive assez sur le tard et qui est assez passionnant, qui apporte du récit, qui est vraiment un vecteur de récit. Il y a des passages dans un supermarché que je trouve assez superbe, non seulement par l'écriture, mais aussi par les effets de suspens qu'il arrive à créer. Très bonne surprise. J'ai vraiment eu peur dans les 50 premières pages du pur exercice de rabelaisien au carré, enfin vraiment quelque chose de démonstratif en diable. Finalement, il y a du romanesque et l'enthousiasme de la langue, il se met vraiment au service du romanesque dans un second temps.
Pas plus convaincu, Étienne de Montesquieu.
Mais non, parce que le vocabulaire m'a souvent paru extrêmement abstrait. Et même de certains moments, je suis allé chercher des mots dans le dictionnaire, c'est pas grave, mais quelque chose qui n'était pas naturel, qui n'allait pas de soi, des choses très très apprêtées, un vocabulaire presque scientifique qui m'a beaucoup décontenancé, parce que je n'imagine pas lire un roman avec cet effort sur le vocabulaire, comme s'il y avait un travail excessif qui en devenait rebutant.
Alors pour le coup, oui, encore une fois, ça fait partie du jeu, comme
moi
je suis très admiratif de ce travail d'écriture, même si il me laisse quand même au final un peu à distance, je dois dire.
Eh ben oui. Quand on parle du sidéralium.
Alors moi, je les ai pris comme des.
Mais moi, je ne connais pas. C'est de la musique. Enfin, moi, j'ai vraiment pris comme de la musique.
De pure
sensation.
Oui, mais bon, là, c'est des...
Il y en a pas... Enfin, moi, il m'a pas semblé qu'il y en avait tant que ça, Étienne. Et moi, je les ai pris vraiment comme des mots de langue étrangère, enfin, qui étaient là pour...
Oui, non, non, bah, il y a les mots... Et puis, il y a beaucoup de mots que je trouve très, très abstraits, très, des mots...
Oui, mais ça va avec la cuisine de la tante.
Oui, oui, oui. C'est aussi abstrait.
Mais ça n'aime pas la lecture.
C'est l'actif et de l'autre de
l'abstrait. C'est le mot de Rabelaisien que Lucille a utilisé, qui, moi, m'aurait assez plu à cause d'un côté concret, incarné. Et en réalité, il y a un style un peu trop, oui, abstrait, je trouve pas d'autres mots.
Lucille, comment?
Ah non, moi, pour le coup, là, je suis pas d'accord, je trouve très concret, et je trouve qu'il réussit très bien quelque chose aussi, Claro, c'est se fondre dans le discours des autres. C'est-à-dire que quand il s'agit de rentrer dans la langue, bah, par exemple, de la tante ou de ses amis, parce qu'elle a trois amis, donc je me souviens plus des noms, les noms sont Marguerite, des poèmes en eux-mêmes, là, il y a des effets de mention, des effets de langage autres, c'est-à-dire qu'il est capable de sortir de sa langue, de cette langue-là, très, très, très vigoureuse et très roborative, pour emprunter la langue d'autrui. Et à cet endroit-là, il est vraiment, vraiment très fort. Je le trouve très fort.
François Joliet.
C'est-à-dire qu'il prend une situation et il appuie un peu dessus pour voir que tout ce qu'elle peut fournir, tout ce qui peut en sortir, tout ce qui peut s'en extraire comme élément linguistique. Donc, à la limite, il y a ces cinq ou six manières, cinq ou six lexiques pour définir une situation, un objet. Et c'est ça qu'effectivement, qui est un peu surprenant. C'est que des fois, on en aimerait qu'il n'y en ait qu'un, mais bon, le jeu est là. Le jeu est de fournir tout ce que peut donner un moment narratif.
Étienne de Montetti?
Non, c'est vraiment l'homme orchestre qui fait des choses devant nous. On y est parfois sensible, parfois pas du tout. À un moment donné, on se dit, et après, qu'est-ce que...
Je crois que c'est une trilogie.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Non, c'est vrai.
Oui.
Ah. Étienne, on vous conviendra pas la prochaine dispute sur la suite. Mais non, mais c'est comme aussi le fait de dire l'attente à chaque fois des.
Oui, des qualificatifs différents.
Un nom nouveau. Mais... Et vraiment, moi, ça fait partie des plaisirs. Et là, c'est très fort aussi parce qu'on se dit bon, est-ce qu'il va le tenir longtemps, jusqu'au bout, combien? Et vous en avez souligné quelques fois.
L'attente au dicton confus, l'attente au palais aberrant,
l'attente au sermon indigeste.
Voilà, à chaque fois qu'il y a une occurrence.
Chaque fois qu'il y a une occurrence. L'attente au rêve invisible.
Je vais le sauver quand même pour un aphorisme. Allez. Qui m'a beaucoup amusé. L'ectoplasme est né libre et partout il erre dans les terres. C'est un hommage à Rousseau et Robert Desnos auquel j'étais assez sensible, mais évidemment une phrase sur 600 pages, c'était un peu trop peu.
Ah, mais vous l'avez sauvé, c'est vous-même qui l'avez dit.
Mais là, la phrase est jolie.
Non, mais juste un exemple de menu, le tagine d'épinards à l'anis en croûte, cuit au jus de badiane, enfin des choses comme ça, il y en a partout.
Si on commence à citer, j'en ai d'autres qui sont quand même moins savoureuses.
Ah oui, allez, une ou deux.
Oh bah le sidéralium parut se détendre et l'afflux salivaire du sud dilaté en lui les rares réseaux pointeront encore nécrosés de sa masse radiaire. Moi, j'attends Marcel Aimé quand même. J'attends Marcel.
C'est de la pure allitération. Je peux vraiment pas chercher plus loin.
Ouais. Et François Angelier qui va nous en servir une petite dernière.
Les premiers objets vibrants nuitamment ineptes, c'est-à-dire les ovnis, sont apparus aux États-Unis à la fin du mois de mars 1962. Ça, ça peut bien. La reconfiguration de ovnis en objets vibrants nuitamment ineptes.
Bon, et Lucille, vous allez nous faire un plat.
Non, mais juste, Benoît, mon petit, je vais te faire des gaufres au rognon. Passe-moi le vinaigre de raisin là sur l'étagère au-dessus des condiments malgaches. Ça me fait beaucoup rire.
Impeccable. Bon, c'était ce moment de dispute consacré à Substance de Claro, publié chez Actes Sud. C'est le moment du coup de cœur. Le coup de cœur ce soir, il est délivré par François Angelier pour un livre dont le titre est Solénoïde, de Mircea Cartarescu, édition noir sur blanc. Et figurez-vous que tout à l'heure, vers 17h59, sur cette antenne, avec notre camarade Emmanuel Laurentin, on s'interrogeait Solénoïde. De quoi s'agit-il? Alors, Emmanuel Laurentin a misé sur une drogue. Moi, j'ai misé sur un robot lunaire.
Bah, vous avez raison.
Les deux
ont raison, parce que le solénoïde, c'est une forme géométrique, et c'est un artefact, c'est une sorte de ressort à la forme très particulière. Mais le solénoïde de Cartarescu est tout à fait spécifique. Je vais vous en dire un peu plus.
Ah bah oui.
D'abord, Mircea Cartarescu, c'est peut-être aujourd'hui la plus grande figure littéraire roumaine. Il a eu à peu près tous les prix. Il est universitaire, libraire, éditeur. Il a même été récompensé par le prix Thomas Mann en Allemagne.
Est-ce qu'il pourrait avoir le Nobel? Parce que c'est 15 jours, ça nous intéresse.
Tout à fait nobélisable. Et je pense que
vous reviendrez alors ce jour-là.
Ah, si oui, je serai avec grand plaisir. moi, je l'avais découvert par la trilogie d'Orbitor, qui avait beaucoup plu à l'époque, à la fois aux amateurs de science-fiction, de fantastique et littérature d'Europe centrale. Il y a 3 tomes de cette trilogie. Et là, avec Solenoid, on aboutit peut-être à la fin d'un cycle, ce qui sera le cycle d'Orbitor, avec une sorte de la constitution d'une tétralogie romanesque tout à fait exceptionnelle. Alors, de quoi s'agit-il? Sur 791 pages qui sont pleines jusqu'au maximum, c'est le journal intérieur.
À côté Claro, c'est la ligne claire, c'est ça?
Voilà, il y a un côté Claro. Disons qu'on est dans une perspective littéraire qui serait plutôt celle de Claro. C'est le journal intérieur et le diaire quotidien, le récit au quotidien de la vie d'un petit professeur de langue roumaine à Bucarest, dans une école comme il en est tant d'autres. Tout cela se passe dans les années 70, à l'époque de Ceausescu. Donc d'une part, il y a véritablement un portrait halluciné et d'une noirceur totale de ce qu'était la Roumanie sous Ceausescu, avec le contrôle des corps, notamment la violence exercée physiquement dans l'école, où on donne des coups de chevalière sur le crâne des enfants qui sont marqués comme des, qui sont véritablement scellés. On pyrographe des numéros d'identité avec dans la chair des élèves. Il y a aussi, les souffrances sont également présentes à la fabrique, bien sûr, et puis dans les lieux de santé, qui sont notamment les préventoriums, les sanatoriums. Enfin, il y a une vision absolument effrayante de cette Roumanie de Ceausescu. Alors ça, c'est un aspect qui peut constituer, comme le dit lui-même l'auteur, un aspect pile. Et puis il y a l'aspect face, qui est véritablement le monde intérieur de ce personnage qui nous narre sa vie, qui a raté son entrée en littérature, dans le monde de la littérature officielle. Il avait lu un long poème devant un cercle littéraire scolaire. Tout le monde, même un peu plus que scolaire, universitaire, tout le monde s'était moqué de lui. Et donc il a décidé de rompre avec la littérature officielle pour devenir un marginal, un franc-tireur, une sorte de maquisard des lettres qui conçoit dans la solitude et dans une sorte de domaine comme ça qu'il s'est bâti, un univers fantasmagorique qui est entre Archimboldo, Ensor, enfin de visionnaires fantastiques. On peut même penser, allons-y, à Lovecraft, ce ne sera pas excessif. Et donc on a une sorte de permanente double régime de ce récit, à la fois une évocation effrayante de ce que peut être la Roumanie de ces années-là, et puis la descente dans un monde visionnaire fantastique. C'est absolument extraordinaire. Vraiment. Je veux dire, parce que justement, on pourrait avoir un effet de saturation, un effet d'engorgement, un effet comme ça d'écœurement, et pas du tout, puisqu'il arrive à mener cette espèce d'énorme coulée linguistique et poétique de façon exceptionnelle. J'avoue que j'avais été très impressionné déjà par le cycle d'Orbitor, et là, Solenoid, c'est un accomplissement, véritablement.
Il me manque une information, François Angelier, qui a traduit ce livre?
Alors, c'est l'admirable Laure Inkle, qui est véritablement là, un tour de force littéraire, parce qu'elle arrive à donner à cette énorme chose, comme ça, c'est ce monument littéraire, une homogénéité, un flux, une sorte véritablement de... Elle conduit le récit sans qu'il y ait de grumeaux, sans qu'il y ait d'attente, sans qu'il y ait justement de moments gratuits, de façon vraiment très étonnante.
Bon, bah, il nous reste à lire Solenoid de Mircea Cărtărescu. C'est aux éditions
Noir sur Blanc,
précieuse maison d'édition.
Tout à fait.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Le dernier ouvrage à notre sommaire ce soir, c'est La part du fils de Jean-Yves Coatalem aux éditions Stock. Jean-Yves Coatalem, qui est rédacteur en chef adjoint du magazine Géo, qui nous a longtemps habitués aux récits pleins d'exotisme et d'horizons lointains. Cette fois, il va plonger au cœur d'un secret, de son secret de famille, de sa famille. L'écrivain va mener l'enquête sur son grand-père, ancien officier colonial, arrêté par la Gestapo suite à une lettre anonyme des dénonciations. Ce grand-père qui mourra à Bergen-Belsen. On écoute un extrait de La part du fils, lu par David Dana.
Brest est notre cassure, la sienne, la nôtre, la capitale du séisme. Brest est ce qui nous reste. L'eau s'est refermée, le mystère a été bu. Informer, c'est déjà trahir. Murmurait-on durant la guerre. Nous ne parlerons jamais de la disparition de Paul. C'est un blanc dans nos conversations. Nous évitons ses états de service. ses garnisons, jusqu'à ses adresses à Saïgon, à Brest et à Kargat. Longtemps, je ne sus quasiment rien de lui, hormis ses quelques bribes arrachées, ses miettes. Elle menait tout au gouffre de l'Allemagne nazie. L'album photo nous était soustrait. Pas le moment, pas la peine, une autre fois. Pareil à ces mandarins subalternes de la Chine ancienne, qui ne devaient souiller de leurs lèvres le nom illustre de l'empereur, nous laissions du vide entre nos mots dès qu'il s'agissait de lui. Nous avalions notre salive. On n'ajoutait rien. Certains paysages et ce prénom feraient défaut. Il y avait des trous dans nos cartes géographiques, les itinéraires, les faits. La douleur, surinait-on, n'était jamais sujet.
La part du fils, nouveau livre de Jean-Luc Coatalem. Premier tour de table rapide, comme à l'accoutumée, Étienne de Montetti.
Oui, il y a des familles qui cachent des secrets honteux, et celle du narrateur de ce livre cache un secret glorieux.
Lucille Comeau.
Un livre en effet de secrets de famille bien menés, mais qui ne renouvelle guère le genre.
François Angelier.
On sait désormais.
Vous faites vraiment un aguichage, c'est pas votre avis en fait que vous donnez. Je vous demande un prémisse comme ça, un avant-goût de la critique à venir, mais vous avez décidé de tordre ce pacte entre nous, mon cher François. C'est Étienne de Montetti qui commence à nous parler de ce livre de Jean-Luc Coatalem.
Oui, c'est un livre qui tranche dans l'œuvre de Coatalem, qui effectivement jusqu'à maintenant faisait des livres de voyage, souvent, soit des livres sur les traces de sa admiration, que ce soit Ségalène ou Gauguin, ou alors des livres plus personnels liés à ses voyages, et dans lequel il installait un ton qui était celui d'une sorte de rouletabille. Il y avait toujours une part d'ironie. Comme le monde est fini, il a été largement sillonné par les hommes, il fallait trouver un autre ton, et il avait trouvé ce ton. Il a notamment écrit un livre qui s'appelle « Le nouilles froides » à Pyongyang, et qui est une... un séjour dans la capitale nord-coréenne tout à fait épatant.
Comme là, le titre l'indique.
Comme le titre l'indique. Et là, tout d'un coup, fini le lointain. Et on reste au plus près de l'auteur, de plus près de Coatalem. C'est un voyage finalement à l'intérieur de lui-même, de sa famille et de ce secret étonnant qui est celui de son grand-père, estimable résistant qui est disparu après une arrestation, qui est déporté, tout ça étant tout à fait honorable et respectable. Et étonnamment, dans sa famille, c'est un non-dit. Et lui, ayant certainement approché l'âge auquel son grand-père meurt, essaye d'enquêter sur cette histoire et se heurte à un mur, qui est celui notamment de son père, qui estime qu'en parler, ça ne se fait pas. Exprimer sa douleur, ça ne se fait pas. Mmh. Et en plus, éventuellement, faire de l'argent, comme il dit, ça ne se fait pas. Et Coatalem va entreprendre de son côté, d'une certaine façon, où le narrateur, mais évidemment, c'est Jean-Luc Coatalem, et quand Lucille dit que ça ne renouvelle pas le genre, pour Coatalem, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à lui, et qui est unique par cette histoire qui est sa propre histoire. Il va mener cette enquête, une sorte d'entomologie de la mémoire. Il va mener une enquête de journaliste, une enquête de fils aussi, une enquête de petit-fils dans l'histoire de cet homme. Donc il va plonger dans les archives de la résistance bretonne, il va aller jusque dans les camps de concentration. Et la réussite de ce livre, c'est pas effectivement une nouvelle enquête sur cette horreur dont on parle depuis 70 ans, c'est que tout se mêle chez lui. Il y a de magnifiques pages sur la Bretagne, parce qu'en réalité, il part loin pour retrouver son grand-père et il est ramené à Brest. Il est ramené dans un petit village de Bretagne, dans une crique et dans une grotte sous-marine de Bretagne. Et tout ça se mêle pour constituer au fond un puzzle dans lequel il manque des pièces. Ce sont les pièces pour avoir la réponse à cette énigme concernant le grand-père qui s'appelle Paul. Mais c'est un puzzle qui se reconstitue sur l'écrivain Coatalem et son paysage littéraire intime.
Lucille Comeau, alors vous avez été attaqué par Étienne de Montetti. Alors vous avez le droit de répondre.
Oui. Bon, je vais aller tout de suite dans ce qui m'a, je dirais, peut-être même gênée dans le livre. Je suis pas absolument emballée de toute façon par le côté quête des origines, surtout qu'il s'articule en effet assez vite à une forme de projet un peu régionaliste sur les descriptions de Brest et de la Bretagne. Bon, en fait, il y a quelque chose dans la recherche de ce passé, donc du grand-père Paul. Non seulement, en effet, la volonté de dessiner une image manquante, ce qui est assez passionnant et de fait, il le présente en permanence, c'est assez passionnant, mais aussi de faire histoire. Faire histoire avec un grand H, et quand vous le disiez, vous aviez tout à fait raison, Étienne, de rendre à la famille une forme de fierté, avec du coup des valeurs qui sous-tendent la narration et le projet, qui sont de l'ordre, de l'honneur, de la fierté familiale, de la patrie. Si on considère qu'en plus tout ça s'articule à une très grande fascination, à mon avis, qui peut être assez ambiguë, pour l'activité coloniale, colonialiste possible du grand-père, il y a quelque chose qui transpire du livre qui est un truc un peu à l'ancienne, que moi je trouve potentiellement un peu rance, un esprit franchouillard. Il y a quelque chose qui me gêne là, d'autant que parfois on sort un peu du carcan du projet et affleure, je pense, à des moments de description et également à des moments, mais on y reviendra peut-être, où le narrateur est vraiment au présent de son enquête. Ouais. Donc là, vraiment, le travail de journaliste se met en place, qui échappe un peu, qui laisse entendre justement la difficulté du silence, la douleur, ce que peut constituer la honte pour son père à lui. Le personnage du père, il est, à mon avis, beaucoup plus intéressant que celui du grand-père, parce qu'en effet, c'est un père qui a toujours tu, alors même que, en effet, ce grand-père était à célébrer depuis le début, puisqu'on sait pourquoi il a été arrêté. C'est dommage. Il y a quelque chose qui manque dans le livre, qui affleure par moments et qui se cogne à une sorte de parole très officielle, très empreinte d'un discours qui me gêne.
Bon, alors je ne sais pas si François Angelis sera juge de paix, mais Étienne de Mozetti à bout de réagir à votre intervention, Lucille. Alors Étienne d'abord.
Oui, je trouve ça injuste et probablement inapproprié, parce que Thalème essaye de comprendre la famille, il essaye de comprendre pourquoi ce Breton Paol est parti en Indochine, donc il se transporte dans une autre époque, donc avec d'autres problématiques. Il n'exprime pas lui-même d'autres jugements personnels sur la situation de la France en Indochine à ce moment-là. En revanche, lui, il fait part de la fascination qu'il a pu avoir pour ces pays il y a 10, 15 ou 20 ans. Et il y a ce va-et-vient entre sa mémoire, lui, de grand reporter, et puis ce que son grand-père, mais aussi ses oncles, puisqu'il a les deux oncles, le père et l'oncle, et lui-même, sont des gens qui sont partis. Ce sont des gens qui ont été happés véritablement par l'ailleurs, probablement à cause de cette déchirure. Donc le mot de rance, je le trouve extrêmement sévère, le mot de colonialisme aussi, et je pense que ça ne rend pas justice vraiment au travail d'intimité qui était celui de Cotem. Et un dernier mot qui m'a gêné, c'est régionalisme. Non, les racines et vraiment les origines de cet écrivain, c'est la Bretagne, et il sait qu'après avoir été au bout du monde pour fuir cette histoire, puis au bout de l'Europe pour aller comprendre ce qu'était devenu ce grand-père Paul, Il est ramené à sa ville, Brest, dont il fait, je trouve, d'assez belles pages sur cette ville, et puis sur cette Bretagne qui est la sienne. Et donc, non, ce sont les racines sans rien de régionaliste.
Avant le quatrième round, on passe par François Angelier.
Oui, moi, quand je disais on sait enfin, c'est-à-dire qu'on a enfin la clé de tout le parcours littéraire de Jean-Luc Coatalem. Parce que je me souviens d'avoir lu à la fin des années 80 du siècle dernier, Zone tropicale, tout ce qu'il publiait au Dilettante. Il y avait une fascination chez lui pour les mâles cabines couvertes d'étiquettes de palaces exotiques, le Raffles. Il y avait un goût chez lui de feuilleter des albums de famille où sur des photos sépia, on voyait l'oncle Agénor dans sa plantation. Il y avait toute une fascination pour l'ailleurs, pour l'exotisme, pour le départ. Alors on pouvait invoquer Loti et ses galènes, mais tout cela on attribuait ça peut-être à une sorte de fascination personnelle pour le monde colonial, après tout, pourquoi pas, mais c'était voilà. Et puis là, avec ce livre, toute cette fascination prend un sens intime, un sens profond, un sens violent, c'est-à-dire qu'il y avait, c'est un peu comme dans le roman de Claro, il y avait une pièce de fermée dans la maison Coatalem, et cette pièce contenait, pendu à un cintre, le tenu de déporté du grand-père qui avait disparu. La pièce était bouclée, on n'y rentrait pas, on n'en parlait pas, elle était peut-être même murée. Il y avait dedans les socs en bois d'un déporté de Dora et la tenue rayée du grand-père déporté. Et je trouve, alors peut-être faut-il avoir lu auparavant plusieurs textes, enfin sur les années, la durée des années de Coatalem pour être touché, mais j'avoue que cette espèce de clé qui nous est offerte brusquement, alors là je ne suis pas d'accord avec le régionalisme et non plus avec le colonialisme. Il y avait une fascination pour un décor, qui était le décor colonial, mais pas pas pour l'idéal colonial. Enfin, je veux pas Coatalem se faire le chantre de la vertu civilisatrice de la France. C'est pas ça. Mais enfin, on sait ce qu'il y avait sous cette fascination pour justement les aventuriers, les francs-tireurs, pour le monde colonial, le monde lointain. Et c'est une signification forte puisqu'elle est celle d'un drame familial.
Lucille, comment ?
Moi, je pense que j'ai été frustrée justement par ce que vous décrivez très bien, François, qui est la clé qui réside dans cette intimité-là. Moi, ce que j'attendais dans le livre, c'est le pourquoi justement de la fermeture de cette pièce dont vous parlez. Et ça, ça échappe. Il y a comme une sorte de... Justement, je trouve que le narrateur et l'auteur du coup derrière ne se met pas assez en danger pour essayer d'affronter la question de la honte. Moi, pour moi, le vrai cœur du livre, c'est sa propre fierté de découvrir ce passé de son grand-père face à la honte de son père à lui. Et cet antagonisme-là, il est jamais vraiment traité.
Oui, il est. Père, quand même.
Oui, mais il y a une scène avec le père. Il y en a une qui est qui touche vraiment à quelque chose de sensible. D'ailleurs, c'est à mon sens une des plus réussies. Oui. Et également, je le redis, sa manière de rentrer vraiment dans le présent du récit. Quand il décrit la première fois où il va à la bibliothèque après des jours et des jours d'échecs, et il trouve une feuille qui s'était égarée dans une mauvaise pile où enfin il y a le nom de son grand-père, et du coup sa vue se brouille, il n'arrive même pas à le lire. Et il y a quelque chose là qui se joue vraiment de l'intimité et de son rapport à la fois à l'écriture et à l'enquête, qui est passionnant, qui tire sur quelque chose d'assez sensible. Mais le fait qu'il ne cesse d'alimenter l'énonciation du projet, il y a vraiment un nombre de phrases qui devient vraiment assez lourd et parasitante pour la lecture. Je ne savais pas ce que j'allais découvrir, ou enfin la rencontre allait se faire depuis tant d'années. Enfin, tout ça est très artificiel, je trouve. Il y a un problème de distance. Moi, j'ai pas été assez proche de lui, je crois.
Étienne de Montetti.
Non, j'écoute Lucille, et je pense que la réponse a été donnée par François Gelé. C'est vrai que c'est un livre qui vient dans une perspective, et donc peut-être que le livre tout seul rencontre pour un lecteur peut-être ses limites, mais en revanche pour quelqu'un qui le suit depuis longtemps, il y a vraiment une élucidation, je ne sais pas si ça se dit ce mot, élucidation. D'autant que
ne craignez pas de faire du claro. Le mot existe.
Je m'en garde. Et puis évidemment, ce qui est très bien, c'est que ça finit pas par la résolution, une happy end ou quelque chose comme ça. On laisse sur un, on reste évidemment sur un mystère, mais l'exploration, je trouve, est belle en soi.
François Angelier.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, il y a une théâtralisation de l'enquête archivistique érudite, qui par moment est peut-être, ça fait partie du, entre guillemets, du suspense de l'enquêteur. Mais néanmoins, je trouve qu'il a quand même, en plus avec toute une construction qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il y a en permanence des flashbacks. C'est-à-dire qu'on retourne justement dans l'Indochine coloniale. Et ce qui suit, c'est-à-dire la déportation, puisque la période de l'Indochinoise et coloniale du grand-père, c'est une période de jeunesse, et il sera déporté quand il sera plus un homme mûr, voire presque un vieillard. Et donc là, les choses s'alimentent l'une l'autre, et les choses prennent un sens qui est renforcé. Moi, j'aime aussi la construction, cette espèce de construction qui est justement en flashback.
Lucille, comment ?
Pour être un peu plus précise, voilà, j'ai retrouvé une phrase qui pour moi résume assez mon rapport au livre. Il dit « Paradoxalement, ce manque originel de récit familial, ce trou généalogique aura fait de moi un écrivain. » Il y a beaucoup de phrases de ce type-là. Là, on a un peu envie de dire, mais en fait, ça fait très longtemps que le trou familial fait des écrivains. C'est pas paradoxal du tout de combler une lacune, un secret familial en écrivant. Il y a une forme de naïveté dans le projet même qui s'énonce en permanence, alors que ce projet est extrêmement banal en soi, je trouve.
Mais Diane Montetti s'insurge à juste...
parce
qu'elle a fait une citation à charge, ce qui est très mal.
Non, c'est pas ça, pas du tout.
Pas à charge, pas du tout. Pas sur le style.
Pas du tout, mais l'écrivain étant seul au monde, il a le sentiment d'être seul avec sa propre histoire, sa propre faille, sa propre souffrance, et puis la narration de son drame.
La part du fils, c'est le nouveau livre, très différent des précédents, de Jean-Luc Coatalem. Il est publié chez Stock. Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute. David Dana nous a rejoint pour nous rappeler la question du jeu d'hier et nous donner sa réponse.
De quelle émission diffusée sur France Culture a été inspiré le spectacle La vie trépidante de Brigitte Tornade? Et la réponse est l'émission fiction La vie moderne.
Ce soir, nous faisons gagner des DVD du film Los Silencios de Béatrice Seignier. Quelle est la question, David?
Sur quelle île a été tourné le film Los Silencios?
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et David Dana. La prise de son ce soir d'Alia, réalisation Alexandre Fougeron. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel on peut réécouter ou podcaster nos émissions. Nous vous donnons rendez-vous demain à 19h pour une dispute qui sera cette fois consacrée au cinéma. En compagnie de Charlotte Garçon, Thierry Chaise et Julien Gester, nous parlerons de Un jour de pluie à New York de Woody Allen, de Bacurao de Kleber Mendoza, Fillo et Giuliano Dornel, de Ne croyez surtout pas que je hurle de Franck Beauvais, et puis ce sera mon tour pour le coup de cœur, un coup de cœur pour trois films de Al Hartley regroupés sous le titre de Long Island Trilogy, je ne sais pas comment on prononce trilogie en anglais, c'est ressorti en salle depuis hier.